Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Les économies vont-elles rebondir après l'épidémie sanitaire actuelle? Voilà la question.
Lorsqu'on lance une balle de tennis sur le sol, elle rebondit, écrit Ricardo Haussmann, ancien ministre vénézuélien réfugié à Harvard. Mais lorsqu'on y lance une bouteille, elle s'y fracasse. Du fait des conséquences de la crise du Covid-19, beaucoup d'économies sont en chute libre. Quelles sont celles qui vont rebondir dès l'an prochain? Quelles sont celles qui vont s'y fracasser? Et quels conseils peut-on raisonnablement donner à leurs responsables politiques pour que le premier scénario ait plus de chances de se réaliser chez eux que le second? Haussmann se sert pour formuler ses conseils d'exemples judicieusement choisis dans des crises récentes. La crise des subprimes de 2008, bien sûr, mais aussi celle qui sévit dans les anciennes républiques du RSS après son démantèlement, ou encore la crise de la dette en Amérique latine au début des années 80. Trois facteurs se révèlent, d'après lui, décisifs. L'ampleur du choc économique initial, la résilience dont fait preuve l'économie nationale, et puis surtout les conséquences politiques du choc. Dans le cas de la crise actuelle, d'origine donc, vous l'avez dit, sanitaire, il s'agit d'abord des conséquences des mesures prises pour prévenir la propagation de l'épidémie sur le marché de l'emploi. Lorsque les gens hésitent à se rendre à leur travail ou lorsqu'on leur interdit, l'activité s'effondre. Mais les épisodes de confinement amputent également la consommation. Certains secteurs d'activité ont été plus touchés que d'autres, on le sait, comme le tourisme, la restauration, l'entertainment. Ce qu'on a moins pris en compte, ce sont les effets du ralentissement des échanges mondiaux sur des économies fortement dépendantes de la demande extérieure. Certains pays ont mobilisé des ressources financières inimaginables en temps de paix pour éviter les faillites en chaîne de leurs entreprises et assurer la continuité des revenus de leurs citoyens. Le plus souvent, faute de ressources financières, ces États déjà lourdement endettés, comme les États-Unis ou la France, doivent compter sur les fameuses mesures exceptionnelles décidées par les banques centrales décidément bien complaisantes. Mais comme le relève sur Project Syndicate deux Français, Bertrand Badré et Aurélie Jean, la Fed américaine en particulier ne pourra pas indéfiniment racheter des actifs à hauteur, tenez-vous bien, de 2 milliards de dollars en moyenne toutes les heures, comme c'est le cas aujourd'hui, tout en maintenant les taux d'intérêt à zéro. À un moment ou à un autre, les acteurs économiques vont perdre confiance et l'inflation va se déchaîner.
D'autant, Brice, qu'il souligne que cela a eu pour effet de faire encore grimper le cours des actions au moment même où l'attractivité économique ralentissait spectaculairement.
Et oui, parce que le déphasage entre, d'un côté, si vous voulez, les chiffres d'affaires et puis de l'autre, la valeur capitalistique de nombre de sociétés est devenu purement extravagant. Il permet à un petit nombre de spéculateurs de s'enrichir, tandis que le chômage va faire baisser les revenus du plus grand nombre. Dans un contexte politique marqué par la perte de confiance envers les élites politiques, comme en celle de l'expertise, cela risque de produire des effets désastreux pour la démocratie elle-même. Alors que peuvent les politiques pour favoriser une reprise en V de la croissance? La plupart des experts estiment à présent que le confinement général, tel qu'il a été imposé dans la plupart des pays d'Europe ce printemps, n'est pas la panacée. Et l'on reparle du modèle suédois, où malgré l'absence de confinement, le nombre de décès dus au Covid par million d'habitants est inférieur à celui de pays qui ont pratiqué un tel confinement, comme l'Espagne, la Belgique ou le Royaume-Uni. Les leaders européens sont aujourd'hui davantage enclins à miser sur des confinements limités, comme on le fait en Allemagne ou en Grande-Bretagne, et surtout sur la maturité des populations. Les gens mesurent mieux ce qui est en jeu, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Ils réagissent en conséquence en adoptant les mesures qui s'imposent. On les connaît, le port du masque dans les lieux publics, les transports collectifs, les lieux de travail, la distanciation sociale dans la rue, la limitation des rassemblements. Mais surtout, comme c'est le cas en Suède, en travaillant depuis son domicile chaque fois que c'est possible. Ricardo Haussmann recommande la création d'un passeport de santé qui serait reconnu de manière internationale. Il permettrait de renouer progressivement avec l'ouverture des frontières aux touristes. Mais ce qui sera déterminant pour le redémarrage des économies, ce sera bien entendu la disponibilité d'un vaccin contre la Covid-19. Barry Eichengreen estime qu'un tel vaccin pourrait être disponible aux USA dès la fin du mois d'octobre. Pour des raisons électorales, ce serait un formidable atout pour Trump. Mais ce serait aussi prématuré, car les essais ne sont pas terminés. Or, un mauvais vaccin, prévient Eichengreen, rendu disponible prématurément, contribuerait beaucoup au climat de suspicion qui fait le lit du populisme. On n'en sort pas.